Le moucheron et le lion. Un moucheron s'approcha d'un lion et lui dit : Je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu prétends le contraire, montre de quoi tu es capable. Est-ce d'égratigner avec tes griffes et de mordre avec tes dents ? Une femme, même qui se bat avec son mari, en fait autant. Moi, je suis plus fort que toi, beaucoup plus fort que toi. Si tu veux, je te provoque même au combat. Et sonnant de la trompe, le moucheron fondit sur lui, mordant le museau dépourvu de poils autour des narines. Quant au lion, il se déchirait de ses propres griffes jusqu'à ce qu'il renonçât au combat. Le moucheron, ayant vaincu le lion, sonna de la trompe, entonnant un chant de victoire et prit son essor. Mais il s'empêtra dans une toile d'araignée et se sentant dévoré, il gémissait, lui qui faisait la guerre au plus puissant, de périr par le fait d'un vil animal, une araignée. Bonjour, bonsoir à tous. Vie, durée et santé. Bienvenue dans votre show, l'Afrique contre-attaque. Notre thème est toujours basé sur Mentuhotep II, le pharaon égyptien de l'ancien empire, si je me trompe. En effet, c'est le moyen empire. Et durant les émissions passées, nous avons eu à focaliser notre attention, comme d'habitude, hein, sur l'actualité ambiante, sur le coronavirus, sur les commentaires politiques, économiques et sanitaires qui sont notre quotidien maintenant. Car faut se le dire, on a basculé dans un monde bizarre, étrange, zarbi, où nous devons nous laver les mains constamment, ce qui en fait devrait même être une habitude hygiénique normale, hein, mais bon, il faut dire qu'on est dans un contexte assez particulier, où nous sommes tous masqués maintenant, tels des justiciers. Les films de super-héros se sont arrêtés à la télévision et nous habillons comme eux maintenant, avec des visages masqués pour échapper à un ennemi invisible qui n'est autre qu'un virus. Mentuhotep II, thème choisi pour traverser ces moments de crise. Confiné là où vous êtes, j'espère que cette tranche d'émission de divertissement est aussi une occasion d'éducation que vous pouvez suivre seul, à deux ou en famille. Ça peut être un moment d'apprendre l'histoire, d'apprendre des stratégies de vécu de par nos ancêtres, les Égyptiens. Alors, aujourd'hui, notre thème est intitulé, ou plutôt notre sous-thème sera plutôt « Lutter contre l'impuissance acquise ». Lutter contre l'impuissance acquise. Et comme nous l'avons dit, notre fil rouge, notre fil conducteur est toujours le livre de Robert Greene, à savoir les 33 stratégies de la guerre. Nous l'avons dit, notre recette, si elle marche, notre sauce, si elle prend, consiste à utiliser l'histoire africaine que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas encore, en tout cas le grand public. Nous voulons utiliser cette histoire africaine, l'explorer, l'enseigner, la présenter, afin non simplement d'avoir une connaissance historique de notre histoire, mais aussi de faire référence tous les jours ou tout le temps à l'actualité ambiante, afin de changer nos mentalités. Donc ce sont les différents axes que nous poursuivons à travers ce show qui se veut être non simplement une activité ou un espace de divertissement, mais aussi d'éducation. Comme nous l'avons dit, c'est ce qu'on dit en anglais par exemple à edutainment, c'est-à-dire on va éduquer, on va aussi proposer de l'entertainment avec tout ça. Alors, nous avons déjà eu à explorer les sept lois de la guerre. Aujourd'hui, nous allons en explorer 6 de plus, si mes calculs sont bons. Nous allons donc entamer la 8e loi qui veut dire tout simplement choisissez vos batailles avec précaution. Mais comme nous l'avons dit, le sous-thème ou le sous-titre d'aujourd'hui, c'est lutter contre l'impuissance acquise. Petit récapitulatif néanmoins, Mentuhotep II, pharaon de la première période intermédiaire qui précède le Moyen Empire, il est dans une situation assez chaotique, C'est là où nous l'avons laissé dernièrement. La guerre a été déclarée. À ce moment, l'Égypte est divisée, redivisée en deux grands royaumes, exactement comme à l'époque durant le prédynastique. En haut, dans le nord, dans la basse Égypte, nous avons donc Mérikaré, et dans le sud, dans la haute Égypte, nous avons donc Mentouhotep II. Mérikaré s'est lancé dans une campagne fourbe, traître, en attaquant la ville sainte d'Abydos, ce qui n'a pas manqué de désemparer les princes thébains, c'est-à-dire ceux de la famille de Mentouhotep, qui ont été attaqués par surprise. La ville sainte d'Abydos, où est enterré, d'après la légende, Osiris, où est enterré Narmer, le fameux roi héros qui a établi la première dynastie égyptienne, eh bien, les rois du nord ont attaqué cette ville afin de frapper au cœur même du saint des saints de la société égyptienne, ou du moins des rois thébains du sud. Et cette attaque ne manquera pas de complètement choquer, de complètement désarmer même les anciens égyptiens du sud. Et cela va entraîner une riposte, une attitude qui va définir l'Égypte durant les prochaines années. Mérikaré, cependant, est un homme très efficace. Très efficace car il a près de lui, on se l'imagine, un stratège hors pair, un maître à penser, un mentor qui n'est autre que, nous le pensons peut-être, nous imaginons, Anctifi, qui est un seigneur de guerre établi dans le Moyen Empire, un seigneur de guerre qui avait fait allégeance, ou du moins s'était allié au roi du nord au lieu de ceux du sud. Et ce Anctifi, ce vieil homme, est d'une efficacité redoutable, d'une perfidie, d'une intelligence remarquable, et nous imaginons que, alliant ses forces aux ceux du nord, il partage aussi sa sagesse stratégique avec les rois du nord. Et peut-être par son conseil, il est celui qui va diriger les forces de Mérikaré, ou les idées de Mérikaré, vers une attaque de Abydos. En effet, les stratèges du nord savent que les anciens égyptiens, que les princes thébains vouent un grand culte à la religion. La religion est extrêmement importante, le spirituel est extrêmement important dans les sociétés africaines. Et attaquer le Saint des Saints, c'est paralyser ses forces, c'est créer ce qu'on appelle tout justement l'impuissance acquise. Alors, qu'est-ce que l'impuissance acquise ? L'impuissance acquise est une réaction d'abandon, la réponse fataliste qui suit cette fameuse croyance que tout ce que vous faites n'a pas d'importance. De qui est cette phrase ? Eh ben, le gouvernateur Arnold Schwarzenegger. Alors, d'après le site Pensée Changée, qu'est-ce que l'impuissance acquise ? L'impuissance acquise, ou impuissance apprise, est tout simplement un processus de résignation qui se produit lorsqu'un être humain ou un animal est sujet de manière répétée, je répète répétée, à un stimulus perçu comme négatif auquel il ne peut échapper. De plus, même lorsque des moyens de sortir d'une telle situation sont présents, cette impuissance acquise fera en sorte que la personne n'agira pas. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Je reprends la définition de l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, ou impuissance apprise, est un processus de résignation qui se produit lorsqu'un être humain ou un animal est sujet de manière répétée à un stimulus perçu comme négatif auquel il ne peut échapper. De plus, même lorsque des moyens de sortir d'une telle situation sont présents, cette impuissance acquise fera en sorte que la personne n'agira pas. La notion de impuissance acquise a été développée par Martin Seligman auprès de certaines recherches qu'il a eu à faire, hein, recherches évidemment qu'il a partagées avec la CIA et qui ont été mises en musique ou en application par les services secrets américains, notamment lorsqu'il s'agit de torturer les gens. mais c'est aussi des concepts qu'ils ont appliqués auprès de propres des soldats américains afin qu'ils puissent résister à la torture. Parce que la torture, justement, c'est briser l'homme de l'intérieur, car les soldats sont entraînés à et préparés à être forts mentalement, de sorte que lorsqu'ils sont capturés, ils ne doivent pas être prêts à divulguer quelconque secret. La mort serait préférable. Alors, il y a des techniques, des tactiques pour pouvoir briser mentalement une personne. Par exemple, si la simulation de la noyade est une manière de briser mentalement une personne. Et Martin Seligman a développé cette notion d'impuissance acquise. Mais bien avant lui, eh bien, les anciens Égyptiens en savaient quelque chose, ne peut-être pas en ces termes-là, mais dans l'action. Méricarée et les siens, peut-être avec Anctifi, avaient compris que le meilleur moyen d'affaiblir les princes thébains, les princes du sud, les Africains, l'Afrique profonde, c'était tout simplement ou les Khemtiou, les Khémites à cette époque-là, ou peut-être même encore, disons, les plus habitants, les Remetou, hein, parce que le terme Khémite, au fait, faut le dire, certains disent qu'il est beaucoup plus tardif que celui de Taméri, hein. Khem était plus tardif que celui de Taméri. Il paraît que Khemet serait peut-être issu peut-être de la vers la 18e dynastie comme ça, mais le terme de Taméri est beaucoup plus précoce, car il renvoie à la houe, et nous avons déjà largement parlé de la symbolique de la houe dans le mental, dans la sphère africaine ou bantoue. Donc le Nord, nous le disions, avait maîtrisé, avait compris cette notion d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'il fallait frapper les princes thébains, les princes du Sud, dans le sein des saints. Ces peuples étant extrêmement religieux, les frapper là où ça fait mal au cœur, et eh bien leur esprit serait paralysé. L'on peut s'imaginer facilement lorsque Abydos est frappé, est assailli et attaqué, des personnes, des pleureuses, se lamentant, criant, la main sur la tête, criant au scandale, criant à l'abomination, criant à la malédiction. Qu'il n'y avait plus rien à faire. Ces personnes, ces princes du Nord, sont certainement adonnés à mutilations, à des destructions méchantes des temples et des statues égyptiennes. Car dans la philosophie égyptienne, vous savez, quand il faut battre mystiquement quelqu'un ou symboliquement, il faut détruire son nez, il faut détruire son visage, il faut détruire des statues. Voilà pourquoi vous verrez en Égypte ancienne des statues ou des fresques qui sont martelées. Ce n'est pas toujours le fait de racistes européens ou peut-être arabes, mais c'est aussi dans la même réalité religion égyptienne ou la peut-être excusez-moi, culture égyptienne, où pour détruire l'âme d'une personne, pour détruire mentalement et spirituellement une personne, eh bien sa statue, on va la détruire. Car bon, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les statues que nous voyons en ancienne Égypte, eh bien ne sont pas établis, ne sont pas taillés ou moulus, pour ceux qui sont adeptes de la théorie de la pierre molle, ne sont pas simplement des œuvres d'art pour pouvoir exprimer la mégalomanie ou la beauté d'un pharaon, ou bien plus que ça, les statues ont une autre fonction. Et j'ai dit bien fonction, elles n'ont pas juste la mission de décorer, mais elles ont une mission aussi ou une fonction métaphysique, énergétique, afin de pouvoir apporter ou agencer une certaine harmonie dans le milieu dans lequel les personnes évoluent. Donc, le raid des princes du Nord, nous le disons, a donc contribué à établir une sorte de paralysie, hein, aussi au niveau des princes thébains, car ayant violé le Saint des Saints, ayant commis une profanation dans un lieu saint, cela a contribué à paralyser les princes thébains. C'est que pendant un moment, ils n'auraient pas eu à penser clairement, à penser distinctement, et cela donnait justement un avantage aux princes du Nord. Pour reprendre la phrase de Schwarzenegger, l'impuissance acquise est une réaction d'abandon, la réponse fataliste qui suit cette fameuse croyance que tout ce que vous faites n'a pas d'importance. Et cela, de la période intermédiaire égyptienne à la période des explorateurs ou des explorations européennes ou de la piraterie européenne, s'il faut utiliser les termes qu'il faut, ce n'était pas de l'exploration, c'était de la piraterie. la colonisation, l'esclavage, cette technique de l'impuissance acquise, qui évidemment dans ses, en sa définition et sa entre guillemets découverte et postérieure avec Martin Seligman, mais nous pouvons voir que les anciens avaient déjà compris comment cela fonctionnait. Eh bien, lorsque ces personnes arrivaient dans les côtes africaines, ils avaient bel et bien compris qu'il fallait mettre en place les structures et le protocole visant à faire acquérir aux autres cette impuissance afin de ne pas pouvoir se développer. Et comme nous l'avons dit, que ce soit les rois du Nord qui attaquent le Saint des Saints dans le sud de l'Égypte, les pirates qui arrivent aussi en Afrique pendant la période coloniale et un peu avant ça, comprennent aussi que le spirituel est l'endroit où il faut frapper les Africains afin de les déposséder de leur force, de leur énergie, de qui ils sont. Ce qui fait que lorsque les différentes religions sont apportées au continent central, du moins, ou au ouest africain, ce n'est pas dans un échange de culture, mais bien avec un esprit de domination, où ces livres, que ce soit le Coran ou la Bible, ont été utilisés afin de pouvoir faire asseoir un esprit de domination. Et nous en avons parlé dernièrement, comment des rabbins, comment des Européens et même des Arabes aussi ont eu à utiliser ces livres dans leurs commentaires pour diaboliser les peuples mélanodermes, pour dire qu'ils étaient maudits, qu'ils ne valaient rien, qu'ils n'étaient pas intelligents. Et toute une littérature a été développée là-dessus auprès des savants des différents groupes ethniques dont nous avons parlé précédemment. Donc, et ainsi, lorsque ces populations arrivent, l'objectif est donc de ne pas, et là je vous demande de bien vous rapprocher, oui, rapprochez-vous de votre téléphone ou de votre ordinateur pour bien écouter, oui, rapprochez-vous encore, encore, n'en faites pas encore, oui, encore plus près, allez, venez, venez, je vais vous dire un petit secret, ah, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Voilà, ça va, ça pas trop près. Ok. Ça va, vous êtes assez près là. Augmentez le volume quand même. Alors, je vais vous donner un petit secret. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi l'Afrique est si religieuse que ça, mais les choses ne changent pas? Tout simplement, c'est parce que ces personnes ont compris, les personnes apportant la religion dans les côtes africaines, avaient compris qu'il ne fallait pas que ces personnes, ces Africains, puissent extirper la volonté de puissance de ces livres. Donc, comme le titre l'indique de cet épisode, il fallait absolument injecter une impuissance auprès de ces populations. On parle ici de l'impuissance acquise ou de l'impuissance apprise, ce qui veut dire qu'on nous a appris à être impuissants. Comment? Par justement la religion, les livres qui nous ont été donnés ont été enseignés de sorte que l'impuissance a été apprise et l'impuissance a été acquise. Nous allons être pragmatiques ici, car nous allons y toucher un tout petit peu un sujet de l'esprit, de la religion. Pourquoi? Parce que il corrobore avec ce que nous voyons avec Mentouhotep II, où l'Abydos, la ville sainte, a été attaquée. Pourquoi elle a été attaquée? Par les stratèges du Nord, parce qu'ils avaient compris que lorsqu'on attaque le Saint des Saints, lorsqu'on attaque la ville sainte, eh bien, les Égyptiens du sud seront trop occupés à se lamenter, à pleurer, à crier au loup, à crier à l'abomination, à essayer de restaurer les statues pour essayer de se reconstruire eux-mêmes. Et là, ce temps-là permettrait aux rois du Nord de s'organiser et faire ce qu'ils avaient à faire afin d'avoir un peu plus d'emprise sur les terres d'Égypte. Et justement, pendant ce temps, curieusement, où Abydos est frappé, pas longtemps après, on verra des tribus asiatiques pénétrer le territoire égyptien. Étaient-ils des mercenaires engagés par les rois du Nord? Probablement, car on voit des fresques, comme dans le tombeau de Banquet III et ailleurs, où l'on voit tout simplement des Nubiens, ou plutôt des Égyptiens du Sud avec des Nubiens, combattant aussi des tribus asiatiques. Donc le chaos est installé à ce moment-là, parce qu'ils avaient bien compris qu'en frappant à l'esprit, on dépossédait les Égyptiens du Sud de leur force, et voilà pourquoi cette stratégie a été mise en place. Donc l'impuissance acquise. L'objectif était de rendre impuissants mentalement les anciens Égyptiens. Comme nous l'avons dit, c'est la même chose qui a été faite lorsque les pirates sont arrivés en Afrique beaucoup plus tard, afin de leur confier spirituellement des outils qui leur enseignaient l'impuissance. Alors, je sais que cela va faire bondir beaucoup de gens. Je sais que cela va faire froncer les sourcils, mais nous devons être honnêtes et nous devons nous dire des vérités afin de pouvoir avancer, de connaître l'histoire, de comprendre là où ça ne va pas, afin de pouvoir changer. Alors, nous ne disons pas ici aux gens d'arrêter de lire leur Coran, d'arrêter de lire leur Bible. Nous ne sommes pas ici pour cela, nous ne parlons pas religion ici, nous parlons tout simplement histoire, nous parlons tout simplement psychologie. Ainsi, nous pouvons poser la question, lorsque la plus majorité, ou le chrétien, ou le musulman lambda, lit son livre, il retire-t-il un sentiment de puissance? Ça serait une question assez contradictoire, parce que l'islam, d'après ce que l'on nous dit, ça signifierait la paix, ça renvoie à la paix. Bon, pourquoi chercher la puissance militaire dans un livre qui chercherait plutôt la paix? Mais vous conviendrez avec moi que dans ces deux livres et d'autres livres, d'autres confessions, d'autres courants de pensée, c'est bien la force mentale que l'on cherche, que ce soit le stoïcisme ou d'autres courants de pensée. On ne veut pas mettre au banc des accusés simplement deux religions, mais on veut analyser tout courant de pensée. Eh bien, l'objectif est quand même d'être à la fois en paix avec soi-même et son environnement, mais ces différentes idéologies ne sont pas libre de toute histoire militaire, que ce soit dans la Bible. Il y a énormément de personnages guerriers, militaires. Dans l'islam, il y a des personnages guerriers et militaires. Dans le stoïcisme, il y a des personnages guerriers et militaires, comme nous avons parlé de Marc Aurèle. Nous avons parlé certainement de Septimus Severus, qui en était peut-être un, ou de Pessinus Niger, et des autres. Donc, dans tout courant de pensée comme ça, même les Chinois, on sait que Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est chinois, même si Confucius s'est établi dans la culture chinoise. Eh bien, Sun Tzu aussi, l'art de la guerre, cela vient de la Chine. Donc, le plus important, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut retirer aussi bien des enseignements de paix, mais aussi être armé de la connaissance pour pouvoir se défendre, car la Bible ou le Coran ou d'autres boîtes de pensée ne sont pas libres, ne sont pas dépourvus d'histoire militaire, de conquête militaire et même de conseils de défense. Bien loin de là, on en parle abondamment. Donc, est-ce que ces livres, dans la manière dont ils ont été enseignés, transmis, donnent-ils une volonté de puissance aux peuples africains? Tandis qu'on se rend compte que l'islam donne une volonté de puissance aux peuples arabes, la Bible donne une puissance, un sentiment de puissance aux peuples européens, car les croisades ont été faites sous la Bible. La Bible en main, Bible sous le bouclier des croisés. La Torah donne un sentiment de puissance aux juifs, car ils se sentent libres avec un Moïse. Et la Torah est mise en avant et a été mise en avant pour justifier la conquête militaire donc d'Israël, car lorsque l'État d'Israël s'est formé, il y a eu la guerre des six jours, vous savez. Et il y a eu des guerres comme ça, lorsque l'État d'Israël, la formation de l'État d'Israël, basée sur des récits bibliques. Donc une guerre a été donc mise en place, de défense ou d'attaque, pour mettre ce royaume en exécution. Et comme nous l'avons dit, les Européens ont fait la même chose. La Bible a servi à des causes militaires. Et le Coran aussi, il y a eu des batailles militaires, guerre sainte, ou du moins pour aller aussi islamiser d'autres personnes. Nous savons par exemple à l'époque maure, pendant le Moyen-Âge, il y a eu ces razzias arabo-mauresques dans le nord de l'Afrique et au niveau de l'Europe, où l'Andalousie a été envahie par des musulmans, par des maures et par des arabes. Et la religion a été implantée, des minarets ont été construits, et nous savons que l'implantation maure a été très significatif pendant ce temps. Donc, guerre aussi bien dans l'islam, avec les invasions arabo-musulmanes, guerre chez les chrétiens, avec les croisades, et guerre aussi dans le judaïsme chez les juifs, avec par exemple la constitution de l'État d'Israël aussi, ou la guerre des six jours, vous en connaissez quelque chose. Donc, au niveau de différentes populations, on voit donc que le sentiment de puissance est aussi utilisé dans ces livres-là, afin que ceux qui les lisent puissent se retrouver forts, puissent se retrouver puissants. Mais cependant, lorsque les populations africaines ont été conquises, ce sentiment de puissance n'a pas été enseigné, de sorte que l'on connaît par exemple le fameux discours de Léopold II, hein, où il envoie ses missionnaires pour leur dire qu'ils voient quelle stratégie il faut employer. Nous répétons que ce discours-là n'a rien d'officiel, c'est peut-être un fake, mais du moins il explique un peu la pensée des stratégies que le pouvoir belge avait au niveau du Congo. Et ensuite, nous avons aussi le fait que des enseignements ont été basés sur, voilà, quand on te donne la joue gauche, si on te frappe à une joue, donne l'autre, toutes ces histoires. Il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées, qui ont été mal enseignées. Si dans leur essence, des textes auraient pu être tout à fait nobles, mais l'on sait que des choses ont été changées, des choses ont été mal traduites, et je n'entrerai même pas dans le fameux débat de l'historicité des événements bibliques à la lumière des recherches archéologiques dont de Israël Finkelstein ou encore de l'exégèse de Thomas Romer ou encore de Bart Ehrman. Ça, mais on le dit, on vous le promet toujours, ça viendra, on aura toute une série d'émissions basées sur ça, mais parce qu'on pourrait dire que voilà, cette même Bible qui est utilisée en Afrique, c'est où les mêmes livres Coran ou d'autres pensées qui est utilisée ailleurs, c'est les mêmes que les autres utilisent, mais pourquoi il n'y a pas développement en Afrique? On pourrait aussi dire que voilà, les morts qui étaient musulmans, mais ils avaient ce sentiment de pouvoir. Si les morts ont envahi l'Europe et qu'ils étaient musulmans, c'est qu'ils avaient ce sentiment de pouvoir, c'est que forcément ils ont pu tirer le pouvoir de ces choses. Certainement oui, à cette époque, parce qu'ils en étaient maîtres, ils ne l'ont pas, bien que il y a eu beaucoup de noirs aussi envahis par les Arabes à cette époque-là, mais il y en a qui ont eu l'intelligence de pouvoir s'accaparer de ces textes-là hors d'un système où les noirs étaient vus et dominés pour s'en accaparer, car on sait aussi que les arabes à la base, tous les arabes ne sont pas forcément sémites tels qu'on les voit comme ça, du moins de le phénotype, mais il y en a aussi qui sont noirs, car si même on doit remonter aux mythes, aux récits des origines, si les anciens égyptiens, étant donné que les égyptiens sont noirs et que Agar est la mère de Ismaël, donc descendant des ancêtres des Arabes, et bien vous pouvez vous rendre bien compte que beaucoup de tribus arabes à la base étaient noires, pas toutes mais beaucoup en tout cas, car d'après les textes même de leurs origines, voilà ce que l'on voit. Voilà, vous pouvez donc imaginer pourquoi le combat d'une Égypte noire est très farouche et féroce et férocement combattu au niveau du croissant fertile, parce qu'il est hors de question, vous savez, il est hors de question d'imaginer, oui, que les Arabes étaient noirs au début, non, Agar noir, non, non, c'est une abomination, vous savez. Donc, durant le temps, durant l'histoire, il y a eu cette diabolisation, nous l'avons dit, dans les écrits des savants, des scholars, comme on dit, hein, des intellectuels de différentes communautés, de différents continents, qui ont diabolisé les populations noires, mélanodermes, africaines, de sorte que ces commentaires ont accompagné les récits saints, car si, peut-être dans les livres, ce n'était pas assez clair que les populations noires ne valaient rien, eh bien il fallait maintenant accompagner par l'enseignement, par les commentaires des récits, par les petites notes qui accompagnait les enseignements ou les livres saints, il fallait expliquer que les Noirs, par exemple, étaient maudits par, avec Cam, que les Arabes, que voilà, les Noirs étaient ceci, cela, par écrit par les Arabes ou certaines autres personnes. Pas tous, évidemment, on dit bien que certaines élites de cette ethnie-là ou de ces populations-là ont eu à écrire des choses qui ne flattaient pas du tout les populations noires. Ce qui fait que les Africains, avec le temps, ne se retrouvent pas lorsqu'ils lisent ces livres parce qu'il n'y a pas la volonté de puissance. Ils retrouvent pas la puissance. En le lisant, ça va choquer, ça va scandaliser beaucoup. Eh bien, en le lisant, eh bien, il y a une impuissance acquise en lisant ces livres. Il y a une impuissance apprise en lisant ces livres. Comment ? Par la psychologie, nous l'avons dit. Si le livre en soi, il serait difficile, certains vont évidemment dire non, voilà, le livre en soi ne dit rien de tel, de négrophobe, rien de tel, si les gens veulent le défendre, mais les enseignements qui ont accompagné ces livres ont apporté cette impression-là, ont apporté cette pensée-là dans le subconscient. Car à travers les films, à travers la littérature, à travers les enseignements, nous l'avons dit, il y a eu cette image de personnes exclusivement d'autres nations, d'autres cultures, que l'Afrique est étrangère complètement à la Bible. Demandez à tout le monde de citer 2-3 noirs dans la Bible, 2-3 noirs puissants dans la Bible, on ne sait pas, 2-3 noirs, 4 noirs, 5 noirs puissants dans le Coran, on ne sait pas, ou dans l'histoire, on ne sait pas, la plupart des gens ne savent pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de volonté de puissance à l'intérieur que l'on peut percevoir parce que l'on ne comprend pas l'histoire, on ne connaît pas l'histoire. On va voir un Salomon, on va dire Salomon c'était le roi le plus riche de l'histoire de l'humanité, on va le dépeindre comme un sémite, alors que l'histoire nous raconte que ce n'est pas Salomon, c'est Mansa Moussa, le roi du Mali. Donc on n'a pas la volonté de puissance. Lorsqu'on regarde le texte, on se dit voilà, l'homme le plus riche est un sémite, il est un juif, c'est les autres, c'est eux qui sont bénis, c'est eux qui ont tout, c'est eux qui ont l'argent, c'est à eux qu'on a tout donné. Ou les Arabes, quand on dit par exemple que Ismaël sera béni des générations en générations, lorsque Agar fouille avec son fils et qu'un ange lui apparaît et lui dit voilà, tes enfants, tes descendants, ta Torah, une descendance de 12 princes ou quelque chose comme ça. Donc on voit la bénédiction chez les autres, mais qui peut dire explicitement la bénédiction qu'il y a sur les Noirs? On ne sait pas. Les Arabes, c'est pratiquement bien défini. Et lorsque les gens font la lecture de la table des nations, on dit voilà, Japhet, on leur a donné les grandes étendues, les Sémites, on leur a donné des territoires. Mais Cam, on va dire, Cam a été maudit. Eh bien, voilà, la perception, l'enseignement n'a pas été bien fait, ce qui fait que les gens n'ont pas la volonté de puissance. Il y a une impuissance acquise à travers les commentaires, à travers les films, à travers le cinéma, à travers la culture, à travers la publicité, à travers le matraquage qu'on fait dans les médias pour dépeindre les Noirs en position négative. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on investit autant d'argent dans le cinéma où on monte et, par exemple, beaucoup d'acteurs noirs américains se sont plaints que la plupart des rôles qu'ils ont, que ce soit les femmes, où c'est pratiquement des rôles de prostituées, des rôles de droguées, ou les hommes, des rôles simplement de vigiles, il n'y a pas de rôle, beaucoup de rôles, où ils ont des statuts puissants. Parce que le cinéma est un objet puissant. Et aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'éducation, je pense. Et c'est le cinéma qui fait l'histoire, c'est le cinéma qui fait l'art. Tous les autres peuples ont leur statut, ils ont leur cinéma, ils ont leur peinture, ils ont leur œuvre culturelle. Mais ce qui fait la culture américaine, c'est son cinéma. Et le cinéma raconte ce qui se passe, le cinéma fait l'histoire de telle sorte que l'Américain moyen ne pense pas qu'il a perdu au Vietnam. L'Américain moyen pense qu'il a gagné au Vietnam, c'est celui qui peut être éduqué, qui se renseigne un peu, surtout nous qui avons grandi à l'époque des films de guerre. Maintenant ça s'est un peu arrêté, mais il y a environ 20 ans, les films de guerre, ou 20-30 ans, les films de guerre étaient très populaires à la télévision, avec Rambo, dont je reparlerai bientôt, étaient très populaires, et on voyait ces héros, fameux héros américains qui allaient en guerre, batailler, un seul homme contre toute une armée, qui l'emportait, qui gagnait. Et combien de films ont été faits sur le Vietnam, et dont je reparlerai tout à l'heure aussi. Et on a l'impression à travers ces films que c'est les Américains avaient gagné le Vietnam, parce qu'on voit des Américains en train de trucider des tas et des tas de Vietnamiens, et ils repartent bien triomphants, alors qu'on le sait, qu'ils sont repartis la queue sous les pattes parce qu'ils ont perdu la guerre du Vietnam. Mais le cinéma nous a fait croire autre chose. Et moi, j'ai quand même grandi comme ça. C'est en devenant adulte, en à l'université, en lisant que j'apprendrai. Oh, en fait, ils ont perdu la guerre. Mais dans mon enfance, j'ai toujours cru qu'ils avaient gagné. Et je me rappelle toujours ce débat que j'ai eu avec un ami à l'université. Je me rappelle au pays. Où on parlait, au niveau de, quand il y avait la guerre en Irak, on disait, waouh, oui, les Américains vont là-bas, mais attention, c'est un terrain qui n'est pas garanti, qui n'est pas très connu, car il risque de se fracasser la tête, comme au Vietnam, ou même en Afrique, en Somalie, ou je sais plus, en Érythrée, où c'était pas fameux du tout pour eux. Et l'ami qui bondissait, et qui disait, non, mais c'est faux, les Américains n'ont jamais perdu de guerre, ils ont gagné le Vietnam. Et toute son assurance n'était basée que sur des films et non pas sur des faits concrets. Donc c'est pour vous montrer la puissance du cinéma américain dans le subconscient des Africains. Et toutes ces politiques que l'on nous vend, je tiens à dire par exemple avec le coronavirus, pourquoi le président français directement a fait une conférence où il sautait, où il disait directement et nous devons aider nos amis de l'Afrique, l'Afrique qui est à côté, nous devons aider l'Afrique. Pourquoi directement penser à l'Afrique alors que vous-même, vous êtes encore incapable de gérer la crise du coronavirus? Tout simplement parce que ça fait partie des stratégies de l'impuissance acquise. Il faut montrer à l'autre qu'il est impuissant. Vous voyez, l'Afrique n'a rien demandé. L'Afrique n'a pas encore été touchée par le coronavirus. L'Afrique n'avait pas, quand il a fait ce discours-là du moins, le président Macron, l'Afrique n'était pas dans les statistiques mortelles et morbides que l'Europe avait, en tout cas l'Italie et l'Espagne ou la France. Même jusqu'à présent, lorsque vous voyez la carte de l'Afrique, de la dissémination du corona, ce n'est pas encore comparable à celle même de l'Europe. Mais directement, le président qui vient, mais l'Afrique, il faut absolument agir sur l'Afrique, ou même encore de Bill Gates, avec qui est responsable de la fondation et qui fait beaucoup de donations à l'OMS. Et bien directement, elle s'insurge, elle dit, voilà, mais il y aura des piles de corps en Afrique, il faut absolument agir. Tout cela passe à travers les stratégies de ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Nous rappelons, l'impuissance acquise est une réaction d'abandon, la réponse fataliste qui suit cette fameuse croyance que tout ce que vous faites n'a pas d'importance. Et c'est ça où les médias directement sautent pour rappeler aux Africains, mais vous êtes impuissant, vous êtes impuissant, vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Et bien, à force de répéter ces choses, on se comporte comme cela. Et Martin Seligman avait fait cette expérience avec des animaux, avec des chiens, où il avait pris trois groupes de chiens, je pense, qu'il avait soumis à des espèces de tests, des tests douloureux, des tests qui frôlaient même carrément la torture, hein. Et il avait remarqué que l'un des chiens, à force d'être soumis à ce traitement-là, eh bien, n'essayait même plus. Quand même la difficulté du test avait été enlevée, le chien avait appris quelque chose. Il avait été conditionné à être impuissant. Et le cinéma américain conditionne les Européens, conditionne leur population à être puissant par les films qu'ils ont, les films de super-héros, les films d'invention, les films de guerre, qu'il montre toujours des Caucasiens, par exemple, toujours en position de victoire, où les femmes ne sont pas souvent mises à l'honneur, où très peu de rôles sont même donnés à ou de job, hein, le travail de directeur de femmes sont très peu donnés. Quand même une femme peut faire un film qui a fait beaucoup d'argent d'entrée, eh bien on pense que peut-être les contrats vont piluler sur la table. Eh bien non. Beaucoup de réalisatrices américaines sont plaintes de ce fait qu'elles peuvent avoir fait un film qui a fait des millions ou des milliards au box-office. Eh bien, ne pensez pas que les contrats vont se déverser sur la table, parce qu'il y a toujours cet agenda-là, paternaliste, pour qu'une certaine élite reste au pouvoir et contrôle, et que l'impuissance soit acquise auprès des femmes et surtout auprès des minorités. Je suivais dernièrement les informations aux États-Unis où, par exemple, on disait, bien que beaucoup d'efforts ont été faits, hein, mais il y avait un leader de la communauté latino qui disait, mais on ne comprend pas dans le stimulus qui a été donné de l'argent, mais on se rend compte que les latinos n'ont pas bénéficié de cette aide de l'État, de ce stimulus qui a été donné, de ces loans, cet argent qu'on a donné aux entreprises pour pouvoir émerger, passer la crise. On se rend compte que les entreprises latinos n'ont pas bénéficié encore de ces fonds-là. Donc on se voit combien compte qu'il y a une sorte d'impuissance qui est enseignée. Hein. On enseigne l'impuissance. Vous voyez, l'impuissance est enseignée à travers les médias. L'impuissance est enseignée à travers les programmes scolaires. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner, car c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Ça, Mary Carey et sa bande l'avaient compris, qu'il fallait enseigner l'impuissance aux anciens Égyptiens. Et la manière de l'enseigner, il fallait frapper là où ça fait mal, dans la ville sainte. Et car il savait que les Africains, lorsque l'on parle spirituel, lorsqu'on parle religion, lorsqu'on touche à ce niveau-là, c'est là où ils ne réfléchissent plus. Pourquoi? Parce que dans la base, ou à la base, la science est liée à la religion. Science et religion, c'est la même chose. Et lorsque l'on frappe la religion, directement, on frappe la science, ce qui veut dire que un Africain, quand même vous lui dites que tel événement, par exemple biblique ou coranique, ou d'une religion, d'une pensée philosophique, n'existe pas, ou n'a pas eu lieu, ou n'est pas vrai, eh bien ça annule directement, ça semble annuler directement ou attaquer directement sa pensée spirituelle. Au lieu simplement de se dire, oh, ça veut dire qu'ici les choses ont été manipulées, peut-être, mais mon esprit reste intact, mais ça embrouille complètement tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Mary Carey et les Nubiens, et c'est quelque chose que nous voyons encore maintenant. Car quand les pirates sont arrivés en Afrique, nous l'avons dit, et qu'ils ont voulu apporter, entre guillemets, les évangiles, ils se sont bien gardés de raconter que tout ce que l'on trouvait là existait déjà en Afrique bien avant, parce que ce sont les prêtres catholiques qui ont été envoyés, qui étaient en fait des espions déguisés en soutane par le pouvoir européen. Ces catholiques-là, si réellement ils étaient venus apporter la religion dont ils parlaient, ils auraient été honnêtes en racontant que la Madone qu'ils ont avec le petit enfant Jésus, eh bien, c'est simplement un copier-coller de Isis et de Horus, des choses qui étaient déjà connues en Afrique et qui ne sont pas seulement restées en Égypte, mais qui se sont aussi déplacées au niveau d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, où on retrouve encore ces figures-là. Donc, ils ne sont rien venus apporter, mais ils sont simplement venus présenter leur version qu'ils ont volée en Égypte, qu'ils ont pris en Égypte et qu'ils sont venus remontrer de manière peinte. Et voilà pourquoi le Christ est même dit, il pointe du doigt les scribes, hein, les scribes, ceux qui écrivent les livres bibliques, pour leur dire que vous êtes des sépulcres blanchis, ça veut dire que vous manipulez les choses. Et même aussi dans les livres de Jérémie, on dit bien que les livres et les textes ont été manipulés. Nous avons déjà parlé ici du fameux Joseph, Amenophis, fils d'Apou, qui est le mélange de deux personnages, à savoir Imhotep et Amenophis, fils d'Apou, et les preuves en sont nombreuses, dans la stèle d'Irstisène qui rapporte les faits des sept vaches grasses, sept vaches maigres, la famine, tout ça sous l'époque de Imhotep, alors que cette stèle-là date justement des Ptolémées, quand la Bible a été écrite, et que d'autres fresques, j'en ai déjà parlé ici, sous Ptolémée IX par exemple, il y a des temples, un mur où on montre les deux personnages, j'en ai déjà parlé, nous n'y reviendrons pas. Pour plus de renseignements, nous allons faire toute une émission ou des séries d'émissions là-dessus, mais nous ramenons les auditeurs aux écrits de Israël Finkenstein et de Thomas Romer, que nous citons beaucoup ici. Car nous devons nous rappeler que la plupart d'entre eux, ces chercheurs dont nous citons le nom, sont nés en Israël, ils connaissent le terrain, ils ont passé des recherches pendant plus de 30 ans, et qu'il est les plus faciles pour l'État d'Israël, qui est pro-judaïsme, que tous les récits que nous avons dans la Bible soient historiques et textuellement et factuellement tels qu'ils sont. Donc ça serait facile de pouvoir démontrer ou infirmer ce que Finkenstein, par exemple, pourrait dire. Mais on se rend compte que lorsque l'on cherche, par exemple, la conquête de Canaan, lorsqu'on cherche les preuves, eh bien, il n'y en a pas. Ça me rappelle la chaîne catholique KTO sur YouTube, qui a invité un spécialiste de l'histoire biblique. On lui a offert de l'argent, lui demandant, mais nous voulions que vous nous fassiez un article sur la conquête des Canaan avec les preuves archéologiques. Il a dit, gardez votre argent, ça ne sert à rien. Il n'y a rien. Donc, vous pouvez comprendre ce que cela veut dire. Alors, ce que nous disons, c'est que les livres, comme nous l'avons dit, Bible, Coran et tout le reste, sont des livres spirituels, sont des livres réconfortants, à bien des égards, mais nous n'oublions pas que l'historicité archéologique a été, comment dire, mise à mal à certains points, à certains endroits, et cela est justifié par les personnages bibliques eux-mêmes, comme Jérémie ou le Jésus lui-même qui dit que les scribes sont comme des sépulcres blanchis qui manipulent, qui changent, qui maquillent, qui peignent la vérité. Donc c'était un phénomène déjà connu dans l'histoire des écritures, des parchemins, des papyrus. C'était connu même des grands prêtres de l'époque. Donc ce que nous voulons dire ici tout simplement, c'est le sentiment de puissance. Le lecteur du africain noir de la Bible, du Coran ou de tout autre mouvement philosophique décèle-t-il le sentiment de puissance dans ce qu'il voit? Par sentiment de puissance, nous ne voulons pas dire forcément apprendre les stratégies de guerre qui vont aller faire, qui vont aller tuer l'autre. Ces livres ont pour vocation évidemment d'apporter la paix et la sérénité. Mais y trouvons-nous la paix? Y voyons-nous un miroir ou y voyons-nous l'apparence des autres? Par exemple, avec le confinement cette semaine, j'ai eu un message où on disait, on montrait Dieu à droite et Satan à gauche. Et Dieu disait, oh, Satan qui disait à Dieu, voilà, grâce au coronavirus que j'ai balancé, toutes les églises sont fermées. Et Dieu à droite qui disait, mais non, au contraire, toutes mes maisons sont devenues des maisons de prière. Curieusement, Dieu était caucasien avec une barbe blanche comme un grec avec un triangle sur la tête et Satan était noir avec la tête d'un latino habillé en rouge. Pourquoi dépeindre Satan comme un latino? Et j'imagine que c'est un caucasien qui a fait ce dessin. Donc dans son imaginaire, dans son subconscient, le diable, le mal est celui qui est noir et celui qui est différent. Et Dieu est forcément comme lui, comme un dieu grec, un sage grec. Et ce qui n'est pas étonnant parce que le mot Dieu vient de Zeus. Vous voyez, Dieu, Zeus, il y a une étymologie qui est raccordée. Il y a le mot Dieu qui est une racine indo-européenne ou grecque. Bien que cette notion de divinité, ils l'ont prise dans le panthéon égyptien, car Zeus aussi correspond à ce qui est du panthéon et égyptien. Et tout à l'heure, nous parlerons de ça un peu plus en profondeur. Mais nous voyons à travers cet exemple-là que l'Européen tire le sentiment de puissance de la Bible pour l'exprimer de certaine manière. Mais le noir chrétien, par exemple, aura du mal, bien que ce n'est pas permis de dessiner, par exemple, Dieu. Mais s'il devait le faire, il aura facilité à dessiner un Dieu qui est blanc, alors que ce n'est pas attesté. Il aurait été du moins... Comment est-ce qu'on peut représenter? Il représente donc l'Européen, donc représente Dieu à son image, mais l'Africain représenterait Dieu par aussi un homme blanc. Dans l'imaginaire populaire, ça serait un homme blanc. Jésus est imaginé comme un homme blanc, bien que c'était apparemment un Palestinien, mais on le représente comme un homme blanc. Alors que la définition dans les Écritures, il a plutôt les cheveux crépus et la peau cuivrée, mais on le représente comme un homme blanc dans son imaginaire. Vous voyez que la personne donc n'arrive pas à tirer un sentiment de puissance, d'où le complexe qui arrive. Voilà pourquoi nous parlons d'impuissance acquise, impuissance qui a été injectée très spécialement lorsque les pirates, les espions déguisés en soutane sont venus avec la religion dite chrétienne ou catholique j'en passe, car les dénominations sont nombreuses, où ça n'a pas été enseigné avec un sentiment de puissance, différemment de l'Europe où après le siècle des Lumières, ou avec le protestantisme qui est aussi une idéologie, la notion de capitalisme a été liée au protestantisme. Faites vos recherches, de sorte que le protestantisme, le capitalisme a été lié. Il y a eu un militantisme à partir de là, ce qui fait que, par exemple, ceux qui ont fui l'Europe pour aller vers les États-Unis, les Anglais du moins, sont allés avec ce courant protestantisme-là pour l'implanter aux États-Unis et commencer aussi cette notion de capitalisme-là qui s'est développé en parallèle avec cette vision-là. Du fait que le capitalisme tire des forces du mouvement protestantisme, de sorte qu'aujourd'hui, on a une aile républicaine aux États-Unis qui est fortement évangélique. Hein? Les valeurs du clan ou du groupe républicain sont très, très, très évangéliques. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui sont républicains et beaucoup qui soutiennent et qui financent parti républicain ou les candidats républicains, de sorte qu'ils sont par exemple contre l'avortement et d'autres mouvements d'autres mouvements qui sont liés à ce qui est religieux. Voilà pourquoi on les appelle les néo-conservateurs, hein, qui sont les chrétiens de nouveau, les born, les fameux born again. Le clan républicain est très lié à tout ce qui est évangélique, et on sait que l'aile républicaine aussi, la droite, est très conservatrice, mais aussi très ancrée dans le capitalisme sauvage, dans le sens où les républicains veulent moins d'État, alors que les démocrates veulent plus d'État. Les démocrates, c'est beaucoup plus social, beaucoup plus libéral, alors que la droite, les républicains sont beaucoup plus conservateurs, les valeurs dites chrétiennes, et beaucoup plus de capitalisme, beaucoup moins d'État, beaucoup plus d'individualisme, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement. Donc, toutes ces forces-là du capitalisme sont liées à la Bible. Donc, la lecture que l'Européen, le Caucasien ou surtout l'Américain a de la Bible, il y trouve une volonté de puissance. Il y attire une volonté de puissance dans le fait que les choses sont européanisées, les choses sont falsifiées, manipulées, dans le sens où, voilà, on va trouver dans Japhet, fils de Noé, c'est une émanation d'un Européen conquérant qui a des vastes étendues, et qu'on va insister sur un cam qui est maudit, de sorte que ces fameux premiers colons anglais sont aussi ceux-là qui sont dans le commerce des bateaux négriers, qui sont tous chrétiens, hein, qui sont en majorité chrétiens, pas tous, mais la majorité des gens sont des chrétiens, ils lisent leur Bible, ils sont confiants et ils font le commerce, ils vont à l'église chaque dimanche, hein, et entre-temps ils ont des esclaves. Parce que lorsqu'ils regardent dans les livres de la Bible, il y a des commandements sur l'esclavage. On légifère sur l'esclavage. Dieu dit, voilà, tu vas faire de ça ton esclave. Et on ne comprend pas que ce sont des textes qui ont été écrits dans un contexte juif de ces populations-là par rapport à leur culture. Est-ce Dieu qui parle ou c'est la culture qui parle? Par rapport à, par exemple, ce que... le Christ a dit que vous mettez au profit votre tradition. Ce que Jésus a dit, vous mettez au profit votre tradition. Est-ce des commandements directement de Dieu ou des commandements d'homme? Car là, on a un Dieu qui légifère sur l'esclavage. Donc Dieu est pour l'esclavage. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà pourquoi nous renvoyons aux études et à la bibliographie de Thomas Romer et à celle d'Israël Finkelstein pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces textes-là lorsque l'on le lit. Donc, nous avons voulu faire ici une étude de la volonté de puissance. Hein, on pourrait aussi faire la même chose avec les textes islamiques, où certaines personnes, certains leaders ont enseigné l'impuissance. L'impuissance a été acquise, l'impuissance a été apprise. Est-ce que les gens peuvent solennellement dire, la main sur le cœur, qu'en lisant ces livres, ils ont un sentiment de puissance? Évidemment, on lancera les paroles de Josué en disant que n'aie pas peur, je serai avec toi partout où tu iras, je vais conquérir avec toi. Et ces fameuses paroles encourageantes du premier livre de Josué, qui donc quitte l'Égypte pour aller entrer en terre promise, pour aller massacrer et pour aller conquérir, de son nom Yesu, hein, c'est le nom que Josué a, son vrai nom c'est Yesu, de son père Nun, dont les deux noms sont des noms typiquement égyptiens, africains. Alors, on pourrait dire que l'Africain pourrait donc se reconnaître en ce personnage qui porte un nom typiquement africain et dont le père est africain, qui est né en terre d'Égypte, en terre africaine, car Josué est né en Afrique, son père Nun est né en Afrique, et les deux ont des noms qui sont ancrés dans les concepts africains, noirs, et égyptiens, et tout ce que vous voulez qui ramène à ces peuples mélanodermes. Mais dans la pensée, dans la construction, comment cela a-t-il été vendu aux gens et comment cela a-t-il été présenté? On le présente comme une entité, une action culturellement sémite pour aller arracher une terre qui est autre, c'est-à-dire abandonner la terre africaine pour aller prendre la terre des autres. Et c'est en cela que le paradigme est assez complexe à pouvoir intégrer pour un Africain qui est noir. Je ne sais pas si on arrive à me suivre à ce niveau. Donc, comme nous le disons encore, nous sommes ici pour faire réfléchir. Nous ne sommes pas ici pour dire ceci est la panacée, ceci est le chemin, ceci est la vérité, ceci est la vie. Mais nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Que pensez-vous de tout ça? Comment s'intégrer dans un paradigme aussi longtemps que c'est un paradigme qui enseigne de quitter l'Afrique, quitter tout ce qui est noir et aller chez les autres, aller conquérir les autres. Ce qui fait que beaucoup vont abandonner l'Afrique et vont aller en pèlerinage à Israël. Peut-être vont aller investir en Israël, vont aller tout donner chez les autres. Alors que chez eux, ils ne construisent pas. Ils vont construire en Europe, ils vont construire aux États-Unis, mais chez eux, ils ne construisent rien. Et c'est là où on se rend compte que la volonté de puissance n'est pas retirée. Parce que les gens, par ce mécanisme-là, apprennent inconsciemment à aller toujours investir chez les autres, aller construire chez les autres, aller apprendre chez les autres, aller étudier chez les autres. On a donc l'impuissance apprise. On a donc l'impuissance acquise car on va toujours faire ses études supérieures chez les autres, on va toujours apprendre chez les autres, on va toujours construire chez les autres, on va toujours inventer pour les autres et jamais chez nous. Et c'est en cela que dans l'esprit, et j'aime cette situation de l'ONU où on dit que étant donné que c'est dans l'esprit des hommes que prennent les idées de la guerre, c'est aussi dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris, que les Africains, pour les avoir, eh bien, il faut attaquer leur esprit. Quand vous attaquez leur esprit, lorsque vous attaquez leur manière de concevoir Dieu, de concevoir le divin, eh bien, vous touchez directement à la raison, vous touchez directement à la science. Et c'est là où nous avons dit dans nos émissions précédentes que nous devons jeter un coup d'œil dans le stoïcisme où nous apprenons la logique, où nous devons réétablir et réconcilier la science et la religion. Car malheureusement, lorsque nous voyons que la science dit quelque chose et que cela contredit un phénomène religieux, nous allons donc dire non, soit je décide d'être aveugle, de ne pas voir, soit tout simplement cette preuve scientifique est fausse, alors que les faits sont tout à fait éloquents. Il faut tout simplement se dire que là, l'homme a menti, là, une femme a menti, là, une chose, la vérité n'a pas été dite, car on sait que les hommes ont beaucoup menti au nom de Dieu. Donc, c'est un défi extrêmement difficile. Et voilà pourquoi Marie Carré choisit cette stratégie pour pouvoir complètement désarmer l'Égypte ancienne, désarmer Mountou Hotep et plonger la Haute Égypte dans le gouffre. Nous allons nous arrêter là, mais c'est mal connaître Mountou Hotep. Il ne s'arrêtera pas là et il a une idée derrière la tête que nous explorons plus tard. Merci beaucoup. Bye bye. Vie, durée et santé.